Douze esprits flottent sur la brise. Jeudi 16 juin, 16h et des poussières, bonjour Victoria, bonjour à tous les auditeurs francophiles et francophones, Alexis Gagnon au micro avec vous jusqu'à 17h, bienvenue dans cette édition du Débrief, votre rendez-vous de fin de journée en information à l'antenne de CILS FM 107,9. Restez bien accrochés à la fréquence 107,9 au cours des 60 prochaines minutes, on vous envoie tout de suite les bulletins de nouvelles de notre collaborateur Denis Lépine. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des infos dans quelques minutes. La production du Débrief est rendue possible grâce à la contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Un nouveau sondage de Morneau Chapelle concernant les finances et la santé des gens de 50 ans et plus, dans certains cas à l'aube de la retraite. Eh bien, 35% des personnes sondées ont déclaré épargner 10% ou moins de leur salaire actuel en vue de la retraite. De plus, les gens planifient de retirer 15% de leurs épargnes totales pendant chaque année à la retraite, soit selon Morneau Chapelle, près de 4 fois le taux qui est normalement recommandé. Selon Paula Allen, membre de la direction de la firme, ces personnes ont une vision irréaliste de leurs finances une fois à la retraite. Elle a dit que plus de 70% des répondants envisagent de retirer chaque année un montant supérieur à celui qui est recommandé. Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, a fait une allocution lors du dialogue de Shangri-La en Chine. Il a dit entre autres que le Canada s'emploie à construire sur ses contributions passées pour s'adapter à la dynamique internationale en constante évolution. Et concernant les agissements d'État islamique, le ministre canadien a dit que la contre-insurrection classique ne fonctionnera pas contre un tel groupe, tout en ajoutant qu'il faut adopter un plan exhaustif pour détruire le groupe extrémiste, son message et ce qu'il représente. Perry Bellegarde a fait une déclaration sur les plus récents investissements de près de 70 millions de dollars en santé mentale pour les Premières Nations du pays. Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations a salué les dirigeants politiques des Premières Nations et tous ceux et celles qui ont fait entendre leur voix pour réaliser ces engagements qui s'imposent de toute urgence, a-t-il souligné. Perry Bellegarde a dit avoir bon espoir que les mesures auront une incidence positive et qu'elles conduiront à une approche pan-canadienne. Conclusion aujourd'hui de la 22e conférence de Montréal du Forum économique international des Amériques. Plusieurs conférenciers et membres de gouvernement auront pris la parole lors de l'événement de 4 jours. Selon le site web du Forum, eh bien, la conférence de Montréal avait pour mission de développer la connaissance des grands enjeux de la mondialisation des économies. La conférence se penchait également sur l'échange d'informations et l'ouverture des possibilités pour d'éventuelles rencontres pour développer les échanges mondiaux. Le sommet des leaders nord-américains approche à grands pas et la rencontre aura lieu cette année le 29 juin au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau, le président américain Barack Obama et le président du Mexique Enrique Peña Nieto discuteront d'une foule de sujets. Il sera question entre autres de création d'emplois, du renforcement des communautés et de l'établissement d'une économie axée sur une croissance propre pour l'Amérique du Nord. Projet de loi C-292, loi qui modifie le Code canadien du travail, registre en fait des maladies professionnelles et des accidents. Eh bien, les syndicats des métiers de la construction du Canada ont confirmé soutenir le projet de loi. Les syndicats ont déclaré dans un communiqué croire que ce projet de loi est une composante importante du leadership fédéral en matière de sécurité en milieu de travail. Bob Blakey, chef des opérations canadiennes des syndicats, a mentionné que ce projet de loi permettra aux travailleurs de savoir si les lieux de travail sont sécuritaires ou non. Il a dit que ce changement était attendu depuis longtemps. L'Association canadienne de l'immeuble a revu ses prévisions des ventes résidentielles par l'entremise des systèmes des chambres et associations immobilières canadiennes en 2016-2017. L'association estime que les tendances du marché canadien de la revente se sont renforcées depuis 2015. Les ventes résidentielles et le prix moyen à l'échelle nationale ont atteint de nouveaux sommets au cours des 6 premiers mois de 2016. L'association prévoit que les ventes à l'échelle du pays atteindront 536 400 logements en 2016, soit une hausse de 6,1% comparativement à 2015. Au sport baseball majeur, victoire de Toronto 7-2 contre Philadelphie et Jays et Phillies mettent fin à leur série ce soir. Au hockey maintenant, les Hawks de Chicago ont échangé Brian Bickle et Teuvo Teravainen aux Hurricanes de la Caroline en retour de 2 choix au repêchage. Finale de la NBA, présentation ce soir du 6e match, Cleveland fait face à l'élimination. Golden State est à la recherche d'un 2e championnat de suite. Et au golf, en terminant début du US Open 2016 aujourd'hui sur le parcours d'Oakmont en Pennsylvanie.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On va passer aux nouvelles provinciales. On commence avec le plan d'infrastructure du gouvernement de Justin Trudeau. Ottawa investit 460 millions dans les transports en Colombie-Britannique. Le gouvernement fédéral a franchi une étape importante aujourd'hui, jeudi, dans le cadre de son programme d'infrastructure en signant une entente de financement avec la Colombie-Britannique afin de transférer une première tranche de fonds de son plan de plusieurs milliards de dollars. Le premier ministre Trudeau a annoncé que son gouvernement investirait 460 millions sur 2 ans en Colombie-Britannique pour moderniser les installations de transport existantes dans la province, ce qui inclut la rénovation des stations vieillissantes et un nouveau parc d'autobus. Des investissements totaux de 921 millions de dollars seront effectués pour la première phase, des projets d'infrastructure en Colombie-Britannique, en comptant les contributions provenant de la province et des municipalités. La première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, a affirmé que ces nouveaux fonds aideront à la lutte contre les changements climatiques. La première ministre a ajouté que son gouvernement avait travaillé auprès du gouvernement fédéral, en collaboration avec le gouvernement fédéral, afin que la province soit la première à recevoir de l'argent pour les transports. Un comité du Sénat avait signalé hier mercredi qu'aucun argent de l'enveloppe de 6,8 milliards de dollars pour les infrastructures n'avait été distribué aux municipalités et aux provinces en raison de l'absence d'entente de financement. La grande région de Vancouver a une longue liste de projets en transport, mais les résidents ont rejeté l'idée d'instaurer une taxe pour financer un programme de transport de 7,5 milliards de dollars échelonnés sur 10 ans. C'est une nouvelle parue dans la presse canadienne. Plus loin dans ce bulletin de nouvelles provinciales, on a un article paru sur le portail de Radio-Canada, BC. L'énergie et les pipelines divisent l'Alberta et la Colombie-Britannique selon un sondage récent. Bien qu'étant voisins, les Albertains et les Britanno-Colombiens ont des priorités différentes concernant les pipelines et le développement énergétique. C'est ce qu'indique un sondage de l'Institut Angus Reid. Du côté de l'Alberta, 63% des répondants estiment que l'Office national de l'énergie a bien fait d'approuver l'expansion du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan avec quelques conditions, contre 41% pour les Britanno-Colombiens. Donc seulement 41% des citoyens de Colombie-Britannique croient que l'Office national de l'énergie a bien fait d'approuver l'expansion du pipeline Trans Mountain. À l'inverse, 9% des participants albertains considèrent qu'il s'agissait d'une mauvaise décision, contre 34% des répondants britanno-colombiens. Ces derniers suivent d'ailleurs la tendance nationale puisque 41% des répondants canadiens approuvent la décision et 35% s'y opposent. Un petit peu plus loin dans ce papier paru sur le site de Radio-Canada, l'expansion du pipeline Trans Mountain a été controversée et a entraîné des manifestations du côté britanno-colombien. Une guerre des mots a également été engagée entre les maires de Calgary, Naïd Nanchi, et le maire de Vancouver, Gregor Robertson. Ce dernier estime que les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion du pétrole de l'oléoduc Trans Mountain auront un impact 10 fois plus important que ceux déjà calculés. D'après un communiqué publié par Angus Reid, donc la firme qui a mené ce sondage, les divergences d'opinion entre l'Alberta et la Colombie-Britannique mettent le gouvernement fédéral dans une position politique difficile, même après la création d'un groupe de 3 personnes chargées d'examiner le projet de pipeline Trans Mountain afin d'envisager les conséquences à long terme du changement climatique. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet dans l'émission Le Débrief lundi. On aura en entrevue un membre très actif de l'organisme à but non lucratif Dogwood Initiative, Monsieur François Brassard, qui nous éclairera sur les enjeux entourant les pipelines en Colombie-Britannique. Donc, c'est à ne pas manquer lundi en fin de journée dans l'émission Le Débrief. Autre nouvelle provinciale que je tenais à vous signaler, les inondations de West Vancouver pourraient aller en empirant. Selon un chercheur de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, le phénomène des inondations à West Vancouver pourrait empirer d'année en année. Cette semaine, la ville de West Vancouver a connu de fortes pluies qui ont forcé l'évacuation de plusieurs maisons et ont causé de nombreuses pannes d'électricité. Le professeur Hans Schreier croit que si aucun changement n'est apporté dans la façon de traiter l'environnement, ce genre de situation va continuer de se reproduire. Le surdéveloppement, la déforestation et les changements climatiques sont en cause dans ces inondations, selon lui. Dans notre environnement urbain, a-t-il déclaré, nous rendons tout imperméable, ce qui fait en sorte que l'eau ne peut être filtrée. L'eau se rend donc directement dans les ruisseaux qui débordent et nous inondent. Selon le professeur Schreier, on doit repenser les routes et les stationnements qui doivent être construits avec plus de matériaux perméables. Le professeur croit aussi que la mise en place de jardins de pluie qui pourraient filtrer l'eau et l'utilisation de plus de terres arables sous les terrains permettrait de régler en partie ce problème. Le spécialiste met aussi de l'avant l'utilisation de fossés que les municipalités ont abandonné au profit de conduites et de tuyaux. Les terrains perméables sont la meilleure façon de filtrer l'eau et le meilleur remède contre les inondations, a déclaré le professeur Hans Schreier, donc de UBC. Autrement, petite nouvelle qui concerne indirectement la Colombie-Britannique, mais puisqu'il est souvent question de pipelines d'oléoduc en Colombie-Britannique, je vous mentionne que les Premières Nations du Québec se sont opposées au projet d'oléoduc Énergie Est. C'est une nouvelle qui a paru aujourd'hui un peu partout dans les médias. Après réflexion, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, l'APNQL, a décidé de joindre les rangs des opposants au projet d'oléoduc Énergie Est de la société Trans-Canada. Alors, il faut se rappeler que le projet Énergie Est, dont la facture s'élève à environ 15,8 milliards de dollars, vise à acheminer quotidiennement sur une distance de près de 5000 km 1,1 million de barils de pétrole en provenance des sables bitumineux de l'Alberta vers Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Donc, ce pipeline va traverser le Québec et une partie du Nouveau-Brunswick. Alors, l'APNQL s'est opposée, on le disait, à ce projet. Mercredi, elle a affirmé qu'elle n'était pas anti-développement, mais qu'elle comptait s'opposer et lutter contre les projets, comme celui du promoteur albertain Trans-Canada, qui représente un danger significatif, selon ses termes. L'APNQL regroupe 43 communautés autochtone. Elle joint ainsi sa voix aux municipalités représentées par la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, qui s'est opposée à ce pipeline, ainsi que l'Union des producteurs agricoles du Québec, l'UPA. Le chef de l'Association des Premières Nations du Québec, Ghislain Picard, a affirmé que son regroupement compte exiger que le Québec et le Canada respectent cette décision afin de satisfaire à leurs obligations constitutionnelles de respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Voilà qui conclut le segment des nouvelles provinciales. Je vous mentionne en deux ou trois secondes en terminant que le FMI a affirmé aujourd'hui qu'il voyait sous un bon œil le développement de l'économie du Canada. L'économie canadienne, après un passage à vide l'an dernier, devrait plutôt bien digérer les conséquences de la chute du prix du pétrole, a estimé en début de semaine le Fonds monétaire international, le FMI. Le FMI qui prévoit que l'économie canadienne connaîtra un taux de croissance moyen de 1,7 pour 2016, oui. Un petit peu plus loin, à moyen terme, un taux de croissance moyen d'environ 2%. Notons que l'avis du FMI ne tenait pas compte du gigantesque incendie survenu dans le nord albertain, dans la région de Fort McMurray, et qui a paralysé donc la région pétrolifère pendant quelques temps ce printemps. Donc, peut-être qu'un autre avis sera émis avec cet élément dans l'équation. On va regarder la météo rapidement. Je vous le disais en début d'émission, on a 16 degrés sur Victoria. En soirée, ce sera sensiblement la même chose, un mélange soleil-nuage. On aura demain également un ciel partiellement nuageux avec une probabilité d'averse de 30% pour un maximum de 17. Pour vendredi 17 juin, ce sera 18 degrés avec un soleil largement dominant, quelques nuages, rien de trop grave. Voilà, on va se transporter en musique. Je vous propose d'écouter la formation Black Mountain avec la pièce Florian Saucer Attack. C'est un groupe de la région de Victoria qui sera à Nanaimo pour la fête du Canada et qui va venir nous rendre visite début août ici à Victoria. Et on va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission car j'aurai le plaisir de m'entretenir avec notre chroniqueur culturel, chroniqueur musical Tim Dubroy. Ce sera en fin d'émission vers 16h40. Donc, restez à l'écoute. On écoute cette pièce de Black Mountain qui s'intitule Florian Saucer Attack. L'excellente pièce Florian Saucer Attack de la formation Black Mountain. Retenez ce nom, Black Mountain. Il en sera question un petit peu plus tard dans l'émission vers 16h40. Je pourrai m'entretenir à ce moment-là avec le chroniqueur Tim Dubreuil, chroniqueur culturel et chroniqueur musical. On va également parler de la formation Plants and Animals. Restez à l'écoute. Mais pour le moment, on se concentre sur la nouvelle du jour. Elle nous est rapportée par la presse canadienne et d'autres médias. Ça concerne la GRC, oui, la Gendarmerie royale du Canada, la RCMP. Le gendarme de la GRC veut savoir si elle a tiré des leçons de l'affaire à Harar. Donc, la police qui supervise notre gendarmerie veut savoir si la GRC a tiré les leçons de l'affaire Harar. La commission qui supervise la Gendarmerie royale du Canada veut savoir si la police fédérale a tiré les leçons de cette affaire. Rappelez-vous, Maher Harar, c'est ce citoyen canadien au début des années 2000 qui avait été emprisonné et torturé en Syrie à cause d'informations tronquées. La commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada se penchera sur un échantillon aléatoire d'enquêtes criminelles de la GRC relative à la sécurité nationale afin de déterminer si la police fédérale a su mettre en œuvre les recommandations formulées par le juge Dennis O'Connor dans son rapport. La commission examinera notamment l'échange de renseignements aux échelles nationales et internationales, ainsi que la détention de Canadiens à l'étranger. C'est la première fois que cet organisme, qui est en quelque sorte la police de la police, autrefois appelée Commission des plaintes du public contre la GRC. C'est la première fois donc que cet organisme se penchera sur les activités de sécurité nationale de la police fédérale, la GRC, depuis que la loi a été modifiée en 2013, donc modifiée pour accroître notamment la responsabilité de cette police dans la police. Maher Harar, c'est un Canadien d'origine syrienne. Il avait d'abord été détenu à New York en septembre 2002, donc un an, pratiquement jour pour jour après les événements du 11 septembre 2001. Il avait été détenu à New York, puis rapidement déporté par les Américains vers Damas en Syrie, où il avait été jeté dans une cellule sordide. L'ingénieur en télécommunications d'Ottawa, Maher Harar, avait été poussé sous la torture à faire des aveux sans fondement aux autorités syriennes du renseignement concernant ses présumés liens avec le réseau terroriste Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden, responsable des attentats du 11 septembre 2001. Alors, à cette époque, il y a plus d'une décennie, la Syrie était dirigée par Bachar el-Assad comme elle l'est aujourd'hui, et on en a appris davantage sur le cas Bachar el-Assad au cours des dernières années. On connaît la brutalité de la guerre qu'il mène contre les populations civiles de Syrie. Alors, Maher Harar était tombé dans les filets de la police syrienne et des militaires syriens. Il a passé un an en prison là-bas, en Syrie, avant d'être finalement libéré. La commission d'enquête présidée par le juge Dennis O'Connor a conclu en septembre 2006 que la longue détention de Maher Harar était très probablement attribuable à de faux renseignements donnés par la GRC aux autorités américaines. Alors voilà, donc c'est un exercice très sain de transparence et de supervision qui est en train d'être mené. Je rappellerai à nos auditeurs que la conjointe de Maher Harar, oui, Monia Mazig, avait publié à l'époque, peu de temps après la libération de son conjoint, un livre intitulé « Les larmes emprisonnées ». Ça raconte l'expérience de Maher Harar après son arrestation à New York et sa lutte suite à sa libération pour rétablir sa réputation. J'ai consulté il y a quelques instants le site web de la bibliothèque municipale de Victoria. Et le livre est disponible. C'est un livre que j'avais lu personnellement dans les années 2000. C'est à la première personne, c'est très personnel et c'est très bien écrit. Ça a été écrit en français d'ailleurs. Monia Mazig est une personne trilingue. Elle est originaire de Tunisie, comme Maher Harar, et elle parle très bien le français. Elle avait écrit ce livre en français, Les larmes emprisonnées, et c'est disponible en français à la bibliothèque municipale de Victoria sur Broughton, la Central Branch. Voilà qui conclut ce petit segment concernant la nouvelle du jour. On retourne en musique tout de suite. Je vous parlais un petit peu plus tôt de Plants and Animals. On va écouter la pièce No Worries Gonna Find Us. Et bien sûr, il sera question un petit peu plus tard dans l'émission, dans environ un quart d'heure, de cette formation et de d'autres groupes qui seront sur Victoria bientôt. On écoute ça tout de suite. On se retrouve avec la revue de presse des éditoriaux dans quelques minutes. excellent morceau de la formation Plants and Animals intitulé No Worries Gonna Find Us. Plants and Animals, qui, en passant, est originaire de Montréal. Je le mentionne pour les exilés montréalais qui nous écoutent, tous ces membres de la diaspora montréalaise qui nous écoutent actuellement dans l'émission Le Débrief. Restez à l'antenne, on va en apprendre davantage sur ce groupe, Plants and Animals. Notre chroniqueur, Tim Dubreuil, va nous donner le topo dans quelques minutes, vers 16h40. Pour le moment, on se tourne vers les éditoriaux parus un peu partout sur la toile. Je vous parle en premier lieu d'un papier publié sur le site Orient 21. Orient 21, c'est un média indépendant qui se focalise sur les questions touchant le Moyen-Orient. C'est très bien fait, c'est de très haute tenue. Il y a de nombreux spécialistes. Et aujourd'hui, il y a un texte qui s'intitule « Un naufrage irakien, Fallujah, d'un martyr à l'autre ». C'est signé par Myriam Benrad. Elle est spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient. Elle est chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, l'IREMAM. Elle est consultante pour plusieurs agences européennes et internationales et collabore notamment au projet « Reconstruire de la sécurité dans les sociétés fragmenté de l'Arab Initiative Reform. Donc son texte se lit comme suit. Il est très long, je ne vous en lirai que quelques passages. Je vous lis l'attaque. Les avancées de l'armée irakienne et des milices chiites appuyées par les États-Unis et l'Iran se poursuivent à Fallujah, mais au-delà de la chute probable de cette ville contrôlée par l'État islamique, c'est tout l'avenir de l'Irak qui reste en question. Et Fallujah symbolise le martyr d'une population et le naufrage d'un pays 13 ans après, entre guillemets, très lourd guillemets, libération. 13 ans après sa libération. Le 22 mai 2016, le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi annonçait le lancement des opérations de reconquête de Fallujah, deuxième plus importante ville de la province occidentale d'Al-Anbar, située à une trentaine de kilomètres de Bagdad, et l'un des théâtres les plus sanglants de la dernière guerre d'Irak. Tombé sous le joug de l'Organisation de l'État islamique, l'OEI, en janvier 2014, soit 10 ans après les sièges militaires américains qui l'avaient ravagé en son cœur, Fallujah reste l'emblème de la résistance sunnite qui s'est développée dès les premiers jours de l'occupation contre le nouvel ordre post-bassiste. Le contexte de cette énième bataille a certes évolué, mais il n'est pas sans faire écho aux batailles qui l'ont précédée. Plus que tout autre lieu, Fallujah continue d'incarner la profondeur du ressentiment qui s'est cristallisé du côté arabe sunnite contre une transition, entre guillemets, jugée inique et dont les dérives ont directement fait le lit de l'organisation État islamique et de sa sécession. Voilà, c'est dans Orient 21, orient21.info, et le 21 est en chiffre romain. C'est un texte signé par Myriam Benrad. Autrement, un petit peu plus près de chez nous, dans les pages du journal Le Devoir, on revient sur le contrôle des armes à feu, évidemment, dans la foulée de l'attentat commis à Orlando samedi. Manon Cornelier, dans les pages du Devoir, donc Manon Cornelier, qui est une éditorialiste régulière de l'équipe du Devoir, elle signe un texte intitulé « Contrôle plus que nécessaire ». Elle nous invite à faire un bon dans le temps, donc à revenir dans le temps. Son texte se lit ainsi. Le 6 décembre 1989, Marc Lépine tue à l'arme semi-automatique 14 étudiantes de l'École polytechnique de Montréal. Il blesse 14 autres personnes, 10 femmes et 4 hommes. Un carnage qui aura l'effet d'un électrochoc et provoquera un mouvement en faveur du contrôle des armes à feu. C'était en 1989. En 1995, poursuit Manon Cornelier dans Le Devoir, une loi est adoptée à cet effet et une des mesures consiste à restreindre l'accès aux armes de poing et semi-automatiques dans le lot, la fameuse AR-15, le même type d'arme dont s'est servi Omar Mateen pour tuer 49 personnes et en blesser 53 autres à Orlando en fin de semaine. Un carnage, un autre. Depuis le milieu des années 90, cette cette arme, la AR-15, ne peut plus servir pour aller à la chasse au Canada. Vous avez bien lu, à la chasse. Elle ne peut servir que dans des compétitions autorisées et dans un contexte de champ de tir. Or, le lobby des armes a entrepris une campagne pour que l'AR-15 ne soit plus une arme à autorisation restreinte au Canada et puisse à nouveau être utilisée pour, trois petits points, chasser le gibier. Un député conservateur de Colombie-Britannique, Bob Zimmer, Bob Zimmer qui est élu, soit dit en passant, dans le nord-est de la province, région de Peace River, s'est même fait un plaisir de présenter à la Chambre des communes une pétition concernant l'AR-15, donc une pétition qui appelle le gouvernement à légaliser cette arme qui avait été bannie, rappelons-le, en 95, comme le mentionnait dans son texte Manon Cornelier. Alors, je vous en avais déjà glissé un mot d'ailleurs dans le débrief. L'AR-15 autorisé au Canada a un chargeur limité, donc 5 balles comparativement au modèle américain, mais comme eux, elle peut être illégalement modifiée, les coupleurs de chargeurs se trouvant aisément sur l'Internet. Et bien qu'une arme semi-automatique ne permette pas de tirer des rafales d'une seule pression de gâchette, le rechargement automatique des cartouches permet à un tireur de peser à répétition sur la détente et de causer rapidement beaucoup de dommages. Donc voilà, Manon Cornelier rappelle les faits entourant ce modèle de fusil, le AR-15 qui a été impliqué donc dans cette tuerie du week-end dernier à Orlando. Elle mentionne bien sûr en conclusion de son texte qu'on n'entend plus beaucoup parler depuis dimanche du député Bob Zimmer qui s'était fait le champion de cette pétition visant à réhabiliter le modèle AR-15 si meurtrier. Voilà donc pour ce texte. Autrement, je voulais vous signaler ce papier, ce carnet de blog écrit par Mathias Brunet dans lapresse.ca. Ça concerne le choix de Las Vegas par la LNH dans le dossier de l'expansion de la LNH. Donc, Las Vegas a eu gain de cause. Las Vegas aura une équipe de hockey professionnel de la LNH. Québec, qui espérait bien sûr retrouver ses Nordiques, a été laissé en plan. Je vous lis quelques passages de ce texte de Mathias Brunet. On s'en doutait déjà, mais la nouvelle est tombée hier. Triste nouvelle pour Québec, la ville, pour la province et pour le hockey en général. J'ai envie de dire pour le hockey au Canada en général, puisque les équipes canadiennes sont un petit peu minorisées désormais dans cette ligue. On sait que aucune équipe canadienne de hockey n'a remporté la Coupe Stanley depuis 24 ans. Je crois que les Canadiens de Montréal ont été la dernière équipe à remporter la Coupe en 1993. Donc voilà pour le contexte. Québec évidemment est déçu de cette décision de la LNH. Mathias Brunet écrit: mais l'arrivée de Las Vegas dans la LNH s'inscrit dans le plan à long terme de Gary Bettman et ses associé Gary Bettman est à la tête, c'est le PDG de la LNH. On veut faire des États-Unis le berceau du hockey. Depuis l'arrivée du commissaire en 1993, on a implanté ou déménagé du Canada aux USA 8 nouvelles équipes: Anaheim, Floride, Colorado, Arizona, Nashville, Atlanta, Columbus et Minnesota. Atlanta, en note de bas de page, n'a pas survécu longtemps dans ce marché urbain et elle a été rendue, cette équipe, à Winnipeg. Mais c'est la seule anomalie face à cette tendance lourde, précise Mathias Brunet en substance. Ensuite, poursuit-il, la LNH a investi massivement dans les programmes de Hockey USA pour développer de jeunes hockeyeurs américains de façon à mousser la popularité du hockey aux États-Unis. Les efforts ont porté fruit. En 2003, 8 Américains, dont 4 provenant du programme de développement, ont été repêchés en première ronde. C'était un record. Ils seront 10 en 2005 et autant en 2006. Et en 2010, c'était 21 Américains qui ont été repêchés dans les deux premières rondes. Donc, on va souhaiter bonne chance à Québec pour l'avenir, puisque ce dossier, évidemment, dans l'esprit des gens de la ville de Québec, n'est jamais clos. L'espoir ne meurt jamais. Québec est une ville mordue de hockey. Et Mathias Brunet, donc, qui chronique dans les pages de la presse, termine son texte avec une petite note d'espoir, justement. Les Hurricanes de la Caroline et leur propriétaire Peter Karmanos sont en sérieuse difficulté financière actuellement. Voyons s'il n'y a pas là une mince lueur d'espoir pour les Nordiques. Donc, une lueur d'espoir à laquelle s'accrocher. L'espoir fait vivre. Donc, petit texte signé Mathias Brunet à propos des Nordiques et de l'expansion à Las Vegas. On va bientôt arriver à l'interview du jour. Comme je vous l'ai mentionné depuis le début de l'émission, on a le plaisir de s'entretenir avec le chroniqueur musical Tim Dubreuil aujourd'hui. C'est un résident de Victoria qui suit la scène musicale de très près. C'est un musicien. Il est passé en studio un peu plus tôt aujourd'hui pour nous parler de deux groupes, dont un groupe local, Black Mountain, qui a des membres de sa formation originaire du Grand Victoria, et aussi le groupe Plants and Animals. On a même trouvé le temps de parler ce festival qui se tient en fin de semaine, Pretty Good, Not Bad. Alors, je vous propose d'écouter ça dans quelques instants. De retour dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On va maintenant aborder la portion interview de l'émission. On s'écarte un petit peu de la ligne habituelle politique et affaires publiques pour s'intéresser à la culture et plus particulièrement à la musique. J'ai le plaisir d'accueillir un nouveau collaborateur, un nouveau chroniqueur qui va nous parler de musique occasionnellement. J'ai nommé Tim Dubreuil. Bonjour Tim.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, merci d'être à l'émission. Alors, tu as des petites suggestions musicales à nous partager. Il s'agit de deux groupes, dont un groupe local qui fait la fierté de Victoria. Et ça se passe en partie dans les prochains jours. Peux-tu me faire un petit résumé?
Oui, Black Mountain. Black Mountain, originalement, vient de Victoria. Deux membres viennent de Victoria. Et maintenant, connaissait tout. Il vient de finir une tour de l'Europe avec une autre band locale, The Backhomes. Puis c'est assez rare qu'ils jouent ici à Victoria. So, c'est vraiment cool. Il y a un show pour la Fête du Canada à Nanaimo, at the Queen's Hotel. Puis un autre show au District, à Nightclub, le 2 août. Et ça, c'est vraiment bon parce que c'est vraiment intime. C'est un petit club. Moi, je viens de... J'étais à Vancouver pour Black Mountain ou le Commodore, juste c'est peut-être trois semaines. Et c'était immense, vraiment bon, vraiment psychédélique.
Oui.
Leur son est une combination de comme Pink Floyd, Black Sabbath, mais complètement contemporain.
D'accord.
Complètement contemporain. Puis District est vraiment petit, ça va être un beau show intime avec une band super gros.
Alors, c'est début août, la date exacte, encore une fois?
Fête de Canada, au Nanaimo, le Queen's Hotel.
Oui.
Puis le 2 août, District Nightclub ici à Victoria.
OK, donc on a le temps de se préparer.
Ouais.
Et puis les plus enthousiastes pourront prendre leur voiture et monter à Nanaimo pour le show de la Fête du Canada. C'est génial. Donc, Black Mountain, c'est un groupe local. C'est un groupe qui est connu un peu partout dans le monde, n'est-ce pas?
Ah oui. Il y a deux membres qui étaient nés ici à Victoria.
D'accord.
Techniquement, je pense que Vancouver est leur vrai comme domicile, il vient de là. Mais il y a leur guitariste, il vient de Victoria. Il a joué dans plusieurs bandes ici. Quand il retourne, c'est C'est comme un événement maintenant.
Ouais, génial. Donc ils ont un gros following ici localement.
Ouais, absolument.
Donc si vous voulez les découvrir, vous pouvez déjà vous rendre sur leur Bandcamp, j'imagine.
Il y a leur site web blackmountainarmy.ca.
OK.
Et il y a tous les liens là.
Ok, génial. Donc, ouais, on peut prendre des petits échantillons, connaître un peu leur style.
Ouais.
Puis, j'imagine, puisqu'ils sont populaires, il faut se préparer quand même avec un peu d'avance si on veut des places.
Oui, oui. Surtout... particulièrement au district.
D'accord.
C'est peut-être 110 personnes, peut-être, 120.
Ok, donc ouais. District, c'est un bar spectacle de Vancouver.
Non, c'est District, c'est ici à Victoria.
Victoria, pardon. Ouais. C'est situé où, à peu près au centre-ville?
Oui, c'est sur Douglas.
D'accord.
C'est juste en dessous de leur... C'est quoi le nom encore? Le gros bar, le complexe avec le volleyball sur...
Tu m'en demandes.
Strathcona, c'est juste.
D'accord. Oui, le volleyball de plage.
Oui, c'est ça.
D'accord. Excellent. Parfait. Donc, Black Mountain, dont on a entendu une pièce un petit peu plus tôt dans l'émission. Les auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission ont entendu la pièce Florian Saucer Attack. C'était juste un petit peu plus tôt dans l'émission. Et il y a également cet autre groupe qui s'appelle Plants and Animals et qui, lui, est en ville ces jours-ci. Donc, ceux qui ont envie d'un menu rock en fin de semaine, à savoir demain, vendredi, il y a une option pour eux, c'est ça?
Oui, Plants and Animals, ils viennent de compléter leur quatrième LP, Waltzing In From The Rumbling. Cet LP-là, c'est un peu comme baroque rock. Ah. Comme il y a une bande... The Left Bank, qui les années 60, c'est un peu comme ça. C'est éclectique, c'est vraiment une band montréalais. Il vient de leur premier album, Park Avenue, ou l'Avenue de Parc.
Ah oui, donc
ouais, était un des meilleurs albums de peut-être les 2000. Et je trouve que leur nouveau album, c'est un retour à ce style. Un peu okay. Plus comme simple, mais ouais. Éclectique et vraiment montréalais.
Ok, génial. Mais ça met l'eau à la bouche, ça met en appétit, ça c'est certain. Donc, Plants and Animals, dont on a pu entendre un petit peu plus tôt une pièce qui s'intitulait No Worries Gonna Find Us, pour les auditeurs qui sont avec nous dans l'émission depuis le début. Autrement, Plants and Animals, c'est leur seule date, hein? C'est la seule chance.
Oui.
Oui, ok. Donc, demain, vendredi, la salle, c'est quoi, la venue?
C'est Sugar.
Sugar.
Sur Yates.
Ok. Parfait. Et le prix d'entrée approximatif?
Aucune idée.
OK.
Mais c'est probablement une vingtaine, mais aucune idée, je m'excuse.
Il n'y a rien là. Est-ce que Plants and Animals va sortir du nouveau matériel ou ils vont chanter leur nouveau matériel ou
oui.
Ils vont chanter... OK.
Oui, ils vont chanter... probablement comme trois ou quatre chansons de leur nouveau.
Oui.
J'ai pas eu le temps de parler avec eux, mais j'ai parlé avec les amis qui vont être avec le band qui va jouer en avant, peut-être. Il s'est
ouais.
Pas confirmé. Et probablement ça, il va jouer Bye Bye Bye, certainement, le gros hit.
C'est le gros hit.
Ouais. Et, la plupart de la musique, ça va être les trois albums en avant. Park Avenue en 2010, La La Land, puis en 2012, The End of That.
Est-ce qu'ils sont toujours installés à Montréal?
Oui.
Oui, OK.
Oui, Warren Spicer est toujours à Montréal. Il vient d'avoir
un bébé,
c'est
ouais,
ça.
Un
so, oui, c'est ça, parce que 2012 à 2016, c'était, je suppose, il est parent maintenant, so,
okay.
Je suppose c'est ça. Le show Sugar. Sugar, c'est pas si intime que District, mais mm-hmm. C'est une bonne salle pour une band comme ça.
OK, formidable. Autrement, on sait qu'il y a un festival de musique principalement électronique, mais avec des accents électroacoustiques un petit peu mm-hmm. expérimentaux mm-hmm. qui va avoir lieu en fin de semaine. C'est super excitant.
Oui.
Tu voulais me parler d'une formation en particulier qui va se produire à l'occasion de ce festival.
Oui, le festival, c'est Pretty Good Not Bad ou Pas Mal OK en français.
Oui.
Et c'est plus Il y a beaucoup d'expérimental, beaucoup d'électronique. Il y a un peu de rock, mais rock avec les éléments électroniques. Et j'ai 3 ou 4 recommandations pour toi. Premièrement, vendredi, Lauren Halo et Alex Goulden.
D'accord.
Électronique, un peu pop, mais pop. Pop comme maintenant, pop un peu comme les années 70 un peu.
D'accord.
Avec, mais le gros chose impressionnant et les visuels va être immense.
Ah ouais.
Dans une salle, et Alex Goulden, c'est une ancienne église. Le son là est parfait, puis ouais. C'est un gros espace, ça va être super cool. Deuxièmement, sur Friday, un de mes amis, Psychic Pollution,
oui.
Il joue au Sunset Room, c'est 400 Herald. C'est un salon petit et rarement utilisé.
D'accord.
Et son musique, c'est plutôt comme krautrock, musique quote unquote ordinateur des
oui.
années 70.
Ouais.
Ça va être cool.
Mais avant, j'ai une question pour toi parce que c'est amusant. C'est quoi le krautrock?
Krautrock. C'est la musique qui utilise les ordinateurs de cette période-là.
Oui.
Beaucoup de claviers analogues. Les voix comme un robot.
Oui.
Choses comme ça. Et utilise un sequencer. La musique qui est comme c'est comme une émission qui commence avec un son dans une machine qui a les filtres.
Oui.
Qui, à l'autre côté, il donne une certaine. Un rythme.
Oui.
Et, c'est vraiment difficile de donner une exacte définition.
Peux-tu me rappeler le nom de la formation une dernière fois?
Oui, Kraftwerk. Psychic Pollution.
Psychic Pollution. On va essayer de faire jouer quelques mesures de Psychic Pollution en fermeture d'émission dans quelques minutes. Autrement, c'était quoi ta troisième option?
Audio sounds, magnetic ring, and visual EMP. C'est le Crag X Climbing Center sur Pandora.
Okay. Une salle d'escalade.
Oui, c'est une salle d'escalade avec c'est musique avec les visuels encore, mais c'est dans tout partout dans le salon.
Wow.
Toutes les murs, des personnes peuvent comme juste être sur le terrain et
ouais.
comme amène un lit.
Ouais.
Avec vous, amène n'importe quoi et ça va être vraiment bon parce que Magnetic Ring, c'est le seul band que je suis vraiment comme que je sais vraiment. Mais
ouais.
le musique est psychédélique,
ouais.
électronique, mais c'est comme la Boards of Canada un peu,
band
écossais.
Ben, c'est ouais. super invitant, puis ouais. Ça donne envie d'y aller. Crag X, qui est une salle avec beaucoup d'espace latéral, vertical, ça va donner des résultats vraiment intéressants, assurément. Donc, prettygoodnotbad.ca pour la programmation complète.
Ouais.
On va essayer de faire jouer un petit morceau de Psychic Pollution en fermeture d'émission. Tim, un grand merci. Merci pour cette collaboration qui nourrit l'émission en options de musique ici sur Victoria. C'est formidable. Au plaisir de te retrouver rapidement et très bientôt.
De rien.
C'était Tim Dubreuil dans l'émission Le Débrief, Tim chroniqueur musical à l'émission. On va bientôt terminer cette émission. Il nous reste quelques minutes. On va, comme je le disais durant l'interview, mettre peut-être en arrière-plan la musique de Psychic Pollution, histoire de donner une petite référence musicale sur cette formation qui va se produire durant le festival Pretty Good Not Bad. Je la mets un petit peu en arrière-plan et je hausserai le volume un petit peu plus tard. On va regarder la météo avant de se laisser. On a, comme je le disais en intro d'émission, 16 degrés sur Victoria. Actuellement, on aura 17 demain avec un mélange soleil-nuage, une probabilité d'averse de 30%. Pour vendredi, on nous annonce 18 degrés, un soleil assez dominant sur Victoria, donc maximum 18. Le retour des nuages samedi, une probabilité d'averse de 60% et un maximum de 15. Ça devrait se dégager dimanche, c'est la bonne nouvelle. On va se laisser dans quelques instants sur ce morceau Can You Dance to This de la formation Psychic Pollution qui va se produire en fin de semaine au festival musical Pretty Good Not Bad. On se dit à lundi, bonne soirée à tous. Restez à l'écoute dans quelques instants. Allô la planète avec l'animateur Éric Lange. C'est dans quelques instants à 17h précise. Je vous mentionne avant de vous laisser la GA du 23 juin, c'est-à-dire l'Assemblée générale annuelle de CILS qui va se dérouler le 23 juin à 17h30 à l'école Victor Brodeur. À ne pas manquer si la radio communautaire francophone vous tient à cœur. Je serai sur place, bien sûr. J'espère vous y croiser. Je vous mentionne en tout dernier lieu que des emplois sont offerts à CLS actuellement. On a deux stages et deux emplois. On a toutes les informations en écrivant à l'adresse dg@cilsfm.ca, dg@cilsfm.ca. Bonne soirée à tous.